Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir à l'intérieur de nous-mêmes, quand nous nous retirons du monde, quand nos yeux commencent à se fermer. Quand nous répondons à l'appel de Morphée et d'Hypnos, les fils de la nuit, les dieux de l'endormissement et du sommeil. Nuit après nuit, nous passons près d'un tiers de notre vie à dormir. Nous plongeons alors dans des états de conscience radicalement différents de ceux de nos états de veille. Dormir, dit Borges, c'est se distraire du monde. Et le sommeil, dit aussi Borges, le sommeil, on le sait, est le plus secret de nos actes. Pendant que nous dormons, nous vivons des périodes de sommeil profond où nous sommes absents à nous-mêmes, où notre conscience semble nous avoir quittés. Des périodes de sommeil profond entrecoupées de rêveries, où notre esprit vagabonde en douceur, hors de notre contrôle. Mais nous vivons aussi des périodes de sommeil paradoxal où nous sommes emportés par les hallucinations les plus vives de nos rêves, qui nous semblent aussi réelles et plus intenses encore que les expériences que nous vivons durant nos états de veille. Notre besoin de dormir, notre envie de dormir, est contrôlé par notre horloge circadienne qui, lorsque rien ne vient la perturber, coordonne au long de 24 heures les activités de notre corps et de notre cerveau. Mais notre besoin de sommeil dépend aussi de la durée de nos états de veille. Indépendamment de l'heure affichée par notre horloge circadienne, plus nous veillons, moins nous avons dormi et plus le besoin de dormir se fait pressant. Lorsque nous pouvons enfin nous endormir, survient un phénomène compensateur qui a été appelé un phénomène de rebond. Nous plongeons alors dans un sommeil plus profond et plus long. Nous récupérons. Si nous veillons davantage et que nous dormons peu pendant plusieurs jours, notre vigilance diminue, nos performances se dégradent, notre capacité à prendre des décisions réfléchies et notre capacité à inscrire ou à convoquer des souvenirs s'altèrent. Nous plongeons de plus en plus souvent dans de brèves périodes de demi-sommeil. Le risque de survenue d'accidents augmente. Et si le manque de sommeil devient chronique, il provoque le développement de maladies. Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer le caractère indispensable du sommeil. L'une de ces hypothèses est que le sommeil jouerait un rôle majeur dans l'élimination des produits toxiques que nous accumulons durant la veille, dans le relâchement de nos réseaux de connexion nerveuse et dans la restauration de nos réserves d'énergie comme un reflux, comme une marée basse après la marée haute de l'état de veille. Une autre hypothèse est que le sommeil permettrait au cerveau de réaliser certaines activités qu'il ne peut réaliser durant la veille, comme d'inscrire nos souvenirs dans notre mémoire durable. Ce besoin quotidien de nous retirer du monde, de plonger nuit après nuit dans cet état de récupération qui est aussi un état de vulnérabilité, nous le partageons avec un grand nombre d'êtres vivants. Les effets négatifs de la privation de sommeil, comme le besoin croissant de dormir à la suite d'une privation de sommeil, sont des phénomènes conservés dans le monde animal. Et chez presque tous les animaux, les nouveau-nés dorment beaucoup plus longtemps que les adultes, et les adultes jeunes plus longtemps que les individus âgés. Mais il y a dans le monde animal des différences en ce qui concerne la relation entre la période de sommeil et la lumière du jour. Il y a des animaux qui dorment la nuit et d'autres qui dorment le jour. Et la durée totale de sommeil au cours de 24 heures est très variable. Parmi les mammifères terrestres adultes, cette durée est d'environ 8 heures chez les humains et d'environ 17 heures chez les singes nocturnes d'Urukuli d'Amérique du Sud, encore appelés singes de nuit ou singes chouettes. Des études indiquent qu'elle est d'un peu plus de 9 heures en moyenne chez les babouins et chez les cochons d'Inde. Elle est près de 16 heures chez l'écureuil terrestre à manteau doré qui vit dans les forêts d'Amérique du Nord et de 8 heures seulement chez un autre rongeur, le daigue du Chili. Elle est d'environ 5 heures chez les chèvres. Chez les mammifères marins, les cétacés, les baleines, les dauphins, les marsouins, l'animal ne dort que d'un œil. Ou plus exactement, il ne dort que d'une moitié de cerveau, puis de l'autre, mais pas des deux en même temps. Son sommeil concerne l'un de ses deux hémisphères cérébraux, pendant que l'autre demeure éveillé. En d'autres termes, la différence entre un dauphin qui dort et un dauphin éveillé est qu'un dauphin qui dort a une moitié de son cerveau éveillé et un œil ouvert, alors qu'un dauphin éveillé a l'ensemble de son cerveau éveillé et les deux yeux ouverts. Il semble que cette hypothèse de l'existence d'un état de sommeil d'une moitié du cerveau seulement ait été proposée pour la première fois en 1964 par John Lilly, un médecin et neurobiologiste excentrique qui était passionné par les dauphins. 13 ans plus tard, en 1977, Lev Mouramietov et deux collègues de l'Institut Severtsov d'évolution et d'écologie de l'Académie des sciences de Russie publiaient dans Brain Research une étude qui confirmait l'existence de ce phénomène étrange de sommeil chez le grand dauphin Tursiops truncatus. Pendant son sommeil, seule une moitié de son cerveau, seul l'un de ses deux hémisphères cérébraux dort durant 4 heures en moyenne. L'autre hémisphère cérébral reste éveillé. Puis l'hémisphère qui s'était endormi s'éveille et l'autre qui était éveillé s'endort durant 4 heures. Et en dehors de cette période, le cerveau s'éveille dans son ensemble durant les 16 heures restantes de la journée. L'œil situé du côté opposé à l'hémisphère cérébral en train de dormir est fermé. Par exemple, quand c'est l'hémisphère droit du cerveau qui est plongé dans le sommeil, c'est l'œil gauche, sous le contrôle de l'hémisphère droit, qui est fermé. Dormir, chantait Luard. Dormir, la lune dans un œil et le soleil dans l'autre. À la différence des mammifères terrestres en train de dormir, les dauphins et les baleines ne sont pas toujours immobiles durant leur demi-sommeil. Ils peuvent continuer à nager en bougeant leurs nageoires et en évitant les obstacles. Cet état de demi-sommeil leur permettrait de remonter régulièrement à la surface pour respirer, de suivre les autres membres du groupe durant leur déplacement et de détecter la présence de prédateurs. Et à la différence des mammifères terrestres, chez les baleines, les nouveau-nés et leur mère semblent ne pas dormir du tout durant le premier mois qui suit la naissance. Ce demi-sommeil alternatif est aussi la façon de dormir des lamantins d'Amazonie, des mammifères herbivores aquatiques d'eau douce, qui ont une taille qui peut atteindre près de 3 mètres et un poids qui peut atteindre 400 kilos. Ils vivent en permanence dans les eaux douces du bassin du fleuve Amazone et dans les rivières et les lacs en amont de l'Amazone. Certains mammifères, dont les otaries, vivent une partie de l'année sur Terre et une autre partie de l'année dans la mer. En 1985, Lev Mouramietov et Oleg Lyamin rapportent que le sommeil des otaries durant leur période de vie sur Terre est identique à celui des mammifères terrestres. Et 13 ans plus tard, en 1998, Mouramietov et Lyamin découvrent que pendant qu'elles vivent en mer, les otaries adoptent le demi-sommeil de leurs cousins dauphins et baleines. Elles ne dorment que d'une moitié de cerveau, puis de l'autre. Les oiseaux de nombreuses espèces, dont de nombreux oiseaux migrateurs, plongent dans ce type de demi-sommeil alternatif pendant qu'ils accomplissent leur long périple. Et certains oiseaux adoptent aussi, en dehors des migrations, cette forme particulière de sommeil qui leur permet de conserver un état de vigilance lorsqu'ils sont exposés à la menace de prédateurs. C'est ce que révélait en 1999 une étude publiée dans Nature. Elle était réalisée par Nils Rattenborg et ses collègues du département des sciences de la vie de l'université de l'État d'Indiana aux États-Unis. L'étude était intitulée « À moitié éveillé face au risque de prédation ». Les chercheurs avaient exploré le comportement de canards colverts qui dormaient en groupe et ils avaient enregistré les activités électriques de leur cerveau par électroencéphalogramme. Les canards qui dormaient en bordure du groupe et qui étaient de ce fait plus exposés à une attaque par un prédateur que les canards qui dormaient au centre avaient une durée de demi-sommeil cérébral avec un œil ouvert qui était 2,5 fois plus importante que les canards qui dormaient au centre du groupe. Et l'œil qu'ils gardaient ouvert était celui qui était dirigé vers l'extérieur du groupe. Il surveillait les alentours. Et quand les chercheurs ont projeté une image vidéo simulant une attaque par un prédateur, les canards qui ne dormaient que d'un œil et que d'une moitié de cerveau ont initié un comportement de fuite moins de 2 dixièmes de seconde après le début de la projection de l'image. Différentes études ont indiqué que des reptiles, les crocodiles, les caïmans, les lézards et les tortues, semblent aussi ne dormir que d'un œil. Mais ces études n'ont pas inclus d'enregistrement des activités électriques du cerveau et il reste à déterminer s'il s'agit véritablement d'un état de sommeil. Mais qu'en est-il chez les animaux du sommeil paradoxal ? Notre sommeil est fait d'une alternance de vagues très différentes qui parcourent notre cerveau et se succèdent plusieurs fois, de 4 à 5 fois par nuit, 4 à 5 cycles d'une durée d'environ 1h30 chacun. Nos périodes de sommeil plus ou moins profond, où prédominent dans le cerveau des ondes lentes de grande amplitude, sont séparées par des périodes de sommeil paradoxal de durée variable, en moyenne de 15 à 20 minutes, qui deviennent de plus en plus fréquentes et durables à mesure que notre sommeil se prolonge. C'est durant ces phases de sommeil paradoxal que surgissent nos rêves les plus intenses et les plus étranges. Notre cerveau est alors parcouru par des vagues d'activation de fréquences rapides qui ressemblent à celles de nos états de veille. Nos yeux sont animés de mouvements spontanés rapides, mais la quasi-totalité de nos autres muscles sont paralysés. Les autres mouvements de notre corps, à l'exception de notre respiration, sont bloqués, ne laissant émerger parfois que de petits frémissements. Sommeil paradoxal, parce que les activités de notre cerveau sont alors pour partie semblables à celles de nos états de veille. Tous les mammifères dont le sommeil a été étudié possèdent des phases de sommeil paradoxal, sauf les cétacés. Leur demi-sommeil a les caractéristiques d'un sommeil profond et on n'a pas détecté chez eux à ce jour de phase de sommeil paradoxal. On pourrait imaginer que la survenue durant des phases de sommeil paradoxal des hallucinations intenses des rêves dans la moitié endormie du cerveau pourrait interférer avec l'état de veille de l'autre moitié du cerveau qui est en train d'analyser le monde extérieur. Mais si le sommeil de tous les autres mammifères étudiés à ce jour comporte des phases de sommeil paradoxal, il y a dans le monde des mammifères de grandes différences dans la durée quotidienne de sommeil, dans la durée totale des périodes de sommeil paradoxal, ainsi que dans la proportion relative entre la durée totale des périodes de sommeil paradoxal et la durée totale du sommeil. Par exemple, chez les humains, la durée totale des phases de sommeil paradoxal est en moyenne d'environ 2 heures, c'est-à-dire environ le quart de la durée totale du sommeil quotidien. Chez les singes nocturnes d'Urukuli, qui dorment en moyenne 17 heures, la durée totale des phases de sommeil paradoxal est la même que la nôtre, environ 2 heures. Mais la part de sommeil paradoxal par rapport à la durée totale de leur sommeil est 2 fois plus faible que chez nous. Chez le babouin qui dort plus de 9 heures, la durée totale des phases de sommeil paradoxal est d'environ 1 heure, c'est-à-dire une durée et une proportion 2 fois moins importantes que chez les humains. Chez l'écureuil terrestre à manteau doré qui dort environ 16 heures, la durée totale des phases de sommeil paradoxal est d'environ 3 heures. Et chez la chèvre, qui dort en moyenne 5 heures, la durée totale des phases de sommeil paradoxal est d'un peu plus d'une demi-heure. Nos lointains cousins, les oiseaux, ont, comme les mammifères, un sommeil composé de phases de sommeil profond et de phases de sommeil paradoxal. Rêvent-ils aussi durant ces périodes de sommeil paradoxal? Nous ne le savons pas, mais rien n'empêche de le penser. Les oiseaux et les mammifères sont des animaux homéothermes, du grec homoios, semblable, et thermos, chaud. Des animaux qui maintiennent constante la température de leur corps et qu'on appelle aussi parfois des animaux à sang chaud. Les autres animaux, dont les reptiles, qui sont incapables de contrôler leur température interne et qui ont besoin de se réchauffer à intervalles réguliers à une source de chaleur externe comme le soleil, sont appelés poikilothermes, du grec poikilos, changeant, et thermos, chaud. On les appelle aussi parfois, à tort, des animaux à sang froid, à tort parce que la température de leur corps s'élève quand ils disposent d'une source extérieure de chaleur. Et parce que les mammifères et les oiseaux étaient les seuls animaux chez qui la présence de phases de sommeil paradoxal avait été identifiée, l'idée s'est imposée que cette phase très particulière de sommeil n'avait émergé au cours de l'évolution que chez les animaux homéothermes, en même temps que leur capacité de contrôler la température de leur corps. Mais une étude publiée dans Science au printemps 2016 a révélé que la réalité était plus complexe.
Les yeux fermés, il ne dit rien. Et je ne sais pas s'il
Les ancêtres communs aux mammifères et aux descendants des dinosaures que sont les oiseaux vivaient il y a plus de 300 millions d'années. Et parce qu'il est plus que probable que ces ancêtres communs n'étaient pas homéothermes, on a pensé que l'émergence du contrôle de la température du corps avait été la conséquence d'un processus d'évolution parallèle survenu de façon indépendante et convergente dans la branche des mammifères et dans la branche des oiseaux. Et qu'il en avait donc été de même en ce qui concerne l'émergence du sommeil paradoxal. Les sauropsides sont les derniers ancêtres communs aux dinosaures, et donc aux oiseaux, aux crocodiliens, aux tortues et aux lépidosaures, dont les lézards. Les sauropsides vivaient il y a un peu plus d'il y a 250 millions d'années. Et les ancêtres des oiseaux et des lépidosaures se sont séparés avant que ne se séparent les ancêtres des oiseaux, des crocodiliens et des tortues. Et ainsi, les lépidosaures sont les reptiles poïkilothermes les plus distants des oiseaux. Et parmi les lépidosaures, il y a les agamidés. Et parmi eux, il y a le dragon barbu de l'Est, Pogona barbata, qui vit en Australie. Il est brun, avec le ventre gris, et mesure un peu plus d'un demi-mètre de longueur. Sa gorge, recouverte d'écailles gris-noires, est à l'origine de son qualificatif de barbu. L'étude publiée au printemps 2016 dans Science était animée par Gilles Laurent. Gilles Laurent est un chercheur français qui, après avoir été professeur de biologie au California Institute of Technology, dirige depuis 9 ans le département des systèmes nerveux de l'Institut Max Planck de recherche sur le cerveau à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. L'étude de Gilles Laurent et ses collègues indique que durant l'alternance régulière lumière-obscurité qui mime au long de 24 heures au laboratoire l'alternance jour-nuit, les dragons barbus dorment la nuit, durant 6 à 10 heures. Ils s'endorment dès la tombée de la nuit et se réveillent spontanément une à plusieurs heures avant que la lumière qui mime le lever du jour ne soit rallumée. L'endormissement est précédé d'une immobilité, la tête s'abaisse, puis les yeux se ferment. L'enregistrement des activités électriques de leur cerveau a révélé des alternances de phases de sommeil profond avec des ondes électriques lentes et de phases de sommeil paradoxal avec des ondes électriques rapides qui ressemblent à celles de leurs états de veille. Les enregistrements des mouvements de leurs paupières à l'aide d'une caméra infrarouge indiquent que les ondes électriques rapides qui parcourent le cerveau durant les périodes de sommeil paradoxal sont associées à des mouvements rapides des yeux. Mais le rythme de ces alternances entre les périodes de sommeil profond et de sommeil paradoxal est très différent d'une autre. Au lieu de nos 4 à 5 cycles d'une durée d'environ 1h30, constitués chacun d'une longue période de sommeil profond et d'une plus brève période de sommeil paradoxal, ces cycles chez le dragon barbu ont une durée extrêmement brève, d'environ 1 minute 30. C'est-à-dire qu'il y a 350 cycles d'alternance sommeil profond-sommeil paradoxal au cours d'une nuit de sommeil. Ces cycles se répètent. Comme un rythme ancestral, extrêmement rapide, qui battrait la mesure tout au long de la nuit. Un rythme de base à partir duquel se seraient élaborés les rythmes beaucoup plus lents qui scandent le sommeil des mammifères et des oiseaux. Mais il y a, chez les mammifères et les oiseaux, des différences en ce qui concerne la durée de ces cycles. Et d'une manière plus générale, la durée et le nombre de périodes de sommeil paradoxal sont très différents chez les oiseaux. Chez tous les oiseaux étudiés à ce jour, à une exception près, les autruches, les phases de sommeil paradoxal sont en effet beaucoup plus brèves et beaucoup plus nombreuses que chez les mammifères. Le sommeil des dragons barbus de l'Est, Pogona barbata d'Australie, est-il entrecoupé de très brèves périodes d'hallucinations intenses qui ressembleraient à nos rêves? On ne le sait pas. Mais cette étude suggère que l'émergence d'un sommeil paradoxal au cours de l'évolution est probablement très ancienne. Plutôt qu'un processus d'évolution convergente qui serait survenu de façon indépendante chez les ancêtres homéotermes des oiseaux, chez les ancêtres homéotermes des mammifères et chez les ancêtres poïkilothermes du dragon barbu, l'hypothèse qui semble la plus probable et la plus simple est que le sommeil paradoxal aurait émergé il y a plus de 350 millions d'années chez un lointain ancêtre poïkilotherme commun aux sauropsides et aux mammifères. Mais seule l'exploration précise des activités électriques du cerveau et des mouvements des yeux durant le sommeil chez d'autres descendants des sauropsides, comme les crocodiles, les caïmans, les alligators et les tortues, permettrait de déterminer si le dragon barbu de l'Est est une exception ou s'il est l'exemple d'une règle. Théodosius Dobzhansky est l'un des pères de la théorie synthétique de l'évolution du vivant. Durant la première moitié du XXe siècle, il a bâti un pont entre la théorie darwinienne de l'évolution et la génétique. En 1973, Dobzhansky écrit dans American Biology Teacher un article dont le titre deviendra célèbre. « Rien n'a de sens en biologie, si ce n'est à la lumière de l'évolution. » Sans cette lumière, poursuit Dobzhansky, la biologie devient un amoncellement de faits disparates, certains intéressants ou curieux, mais qui ne permettent pas de dégager une vision cohérente de l'ensemble. Rien n'a de sens en biologie, si ce n'est à la lumière de l'évolution. Et les recherches sur l'origine et l'évolution du sommeil devraient pouvoir apporter un éclairage sur le sens, la signification, ou plutôt sur les contraintes qui ont conduit à la conservation au cours de l'évolution du besoin de sommeil, et sur le rôle que joue le sommeil dans le fonctionnement et la reconstruction permanente des corps et des esprits. Le cerveau des petites mouches drosophiles est trop petit pour qu'on puisse y détecter des activités électriques qui ressembleraient à celles des phases de sommeil profond ou de sommeil paradoxal. Les mouches dorment-elles ? Il y a 17 ans, en 2000, deux études étaient publiées dans Neurone et dans Science. Elles indiquaient que, en dehors d'une petite sieste au cours de la journée, la quasi-totalité de la période de repos et d'immobilité des mouches se déroulait durant la nuit. Et cette période de repos avait toutes les caractéristiques qui définissent le comportement de sommeil. Une immobilité quasi complète, une absence d'alimentation, une diminution de la réponse aux stimulations de l'environnement et une augmentation du seuil de la stimulation nécessaire pour provoquer un réveil. Une réversibilité de l'état de torpeur en réponse à des stimulations importantes, ce qui distingue le sommeil d'un état de coma ou d'une anesthésie générale. Et lorsqu'on prive les mouches de sommeil en les stimulant à la fin de la journée et en les empêchant durant plusieurs heures de s'endormir, en d'autres termes, en provoquant un retard de sommeil, ce retard provoque, comme chez nous, un sommeil compensateur, un rebond du sommeil, c'est-à-dire que la mouche dort ensuite plus longtemps et plus profondément que d'habitude et rattrape ainsi son retard de sommeil. De plus, des substances qui empêchent le sommeil chez les mammifères, comme la caféine, et des substances qui au contraire favorisent l'endormissement, comme les médicaments antihistaminiques, ont le même effet chez les mouches que chez les mammifères. Et ainsi, ces deux études indiquaient que les mouches du vinaigre dormaient chaque nuit et que le sommeil était important pour elles. Puis, d'autres études ont révélé l'étendue des similitudes qui existent entre les mécanismes neurobiologiques qui contrôlent l'alternance de la veille et du sommeil chez la drosophile et chez les mammifères, ainsi que l'importance du rôle du sommeil durant la petite enfance et à l'âge adulte chez la drosophile. Dormir est-il un besoin universel dans le monde animal ? Parmi les animaux les plus étudiés depuis longtemps par les biologistes, dans l'environnement artificiel des laboratoires, il y a le petit ver transparent Caenorhabditis elegans. Son corps adulte a 1 mm de long et il n'est constitué que de 959 cellules, dont 302 seulement sont les cellules nerveuses qui constituent son cerveau et ses nerfs. Un tout petit cerveau. Deux études, l'une publiée en 2008 dans Nature, l'autre publiée en 2014 dans Current Biology, ont révélé l'existence chez le petit ver transparent de deux états particuliers de repos qui ont tous les deux les caractéristiques du sommeil, mais qui surviennent l'un au début de sa vie et l'autre durant sa vie adulte. Le sommeil joue-t-il un rôle important chez Caenorhabditis elegans ? Et si oui, lequel ? Nous le découvrirons dans une prochaine émission, car c'est une autre question, apparemment étrange, que je voudrais maintenant aborder. Une question qui est au cœur des interrogations concernant l'origine et l'évolution du sommeil dans le monde animal. Tous les animaux chez qui la capacité et le besoin de dormir avaient été mis en évidence, des mammifères aux oiseaux, des reptiles et des amphibiens aux poissons, et de la drosophile à Caenorhabditis elegans, sont des animaux qui possèdent un cerveau. Et c'est le cerveau qui bascule chaque jour d'un état de conscience de veille et d'attention au monde environnant à un état de sommeil coupé de l'environnement extérieur. Mais est-il indispensable d'avoir un cerveau pour dormir? Les animaux qui n'ont pas de cerveau n'ont-ils aucun besoin de sommeil?
Quand l'amour s'en vient comme un torrent, en mon cœur prisonnier du courant, je voudrais chanter l'amour retrouvé. Que fais-tu, amour, sur le palier? Quand sais-tu, amour, je suis trompé? Je voudrais chanter l'amour retrouvé. Ouh, 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 oui. Fini Battlefield. Ouh, ouh. Fini Battlefield.
Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter.
Les cnidaires, les coraux, les anémones de mer et les méduses possèdent un système nerveux composé d'un réseau étendu de nerfs, mais ils n'ont pas de système nerveux central, ils n'ont pas de cerveau. En 2004, une étude faisait l'objet d'une brève communication dans The Medical Journal of Australia, le journal médical d'Australie. Elle était intitulée « Est-ce que les méduses dorment la nuit ?» L'étude avait été réalisée par Jamie Seymour et des collègues de la faculté de biologie tropicale de l'université James Cook à Cairns, en Australie. Les méduses boîtes sont des cubozoaires. Elles font partie des cnidaires et sont apparentées aux méduses. Méduses boîtes et cubozoaires, leur nom est dû à la forme cubique de leur cloche. Certaines espèces de méduses boîtes, comme Chironex fleckeri, qui vit le long des côtes de l'Australie et de la Nouvelle-Guinée, ont un venin extrêmement puissant qui peut être mortel pour les humains. Et en prenant des précautions pour éviter le venin, Jamie Seymour et ses collègues, qui voulaient explorer les déplacements de ces animaux marins, avaient collé une petite balise, un transmetteur, sur la cloche de plusieurs méduses boîtes. Et ils ont découvert que durant une partie de la journée, de 6h du matin à 3h de l'après-midi, les méduses boîtes voyageaient dans une même direction, à la vitesse de 200 mètres à l'heure en moyenne. Puis, de 3h de l'après-midi à 6h du matin, elles ne bougeaient presque plus, se déplaçant en moyenne de moins de 10 mètres par heure. Pendant cette période d'une durée de 15 heures qui inclut toute la nuit, elles demeurent sur le fond marin, leurs bras reposant sur le sol. Lorsque les chercheurs les ont éclairées, elles sont remontées du fond vers la surface, ont nagé pendant une courte période, puis se sont allongées à nouveau sur le fond de l'océan, retrouvant leur niveau antérieur d'inactivité nocturne. Les méduses boîtes chassent et se nourrissent à la lumière du jour, et Jamie Seymour et ses collègues pensent que durant la nuit, elles dorment. Mais est-ce que leur état d'inactivité a les caractéristiques d'un véritable sommeil? L'étude ne permet pas de le dire. Les méduses boîtes ont un système nerveux plus développé que les autres cnidaires, les autres méduses, les coraux et les anémones de mer. Elles ont notamment, sur la surface externe de leur cloche, quatre véritables yeux, constitués chacun d'une rétine et d'un cristallin, des yeux capables de former des images visuelles. Et elles ont en plus 20 ocelles, des photorécepteurs capables non pas de former des images, mais de percevoir la lumière et d'y répondre. Est-ce que les autres cnidaires, dont le système nerveux est plus rudimentaire, dorment et ont besoin de sommeil? Trois étudiants en thèse au California Institute of Technology, Ravi Nath, Claire Bedbrook et Michael Abrams, ont décidé d'explorer cette question. Ravi Nath étudiait dans le laboratoire de Paul Sternberg les mécanismes impliqués dans le sommeil de Caenorhabditis elegans. Et il avait réalisé sur ce sujet, avec quatre chercheurs dont Sternberg, une étude qui avait été publiée en septembre 2016 dans Current Biology. Michael Abrams, un étudiant en thèse dans le laboratoire de Léa Guntoro, étudiait les méduses. Et avec quatre chercheurs dont Léa Guntoro, en 2015, ils avaient publié dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis une étude sur les mécanismes de réparation des lésions chez les méduses. Dans le même institut, dans les laboratoires de Viviana Gradinaru et de Frances Arnold, Claire Bedbrook explorait des protéines qui sont présentes dans les algues vertes unicellulaires et qui répondent à la lumière en changeant de conformation. Ce sont des channel rhodopsines qui sont utilisées dans de nombreux systèmes d'activation cellulaire par les chercheurs en neurobiologie. Et elle avait publié plusieurs études sur ce sujet depuis 2014, dont la plus récente en 2017 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Ravi Nath était intéressé par le sommeil, Michael Abrams par les méduses, Claire Bedbrook par les algues. Et ces trois étudiants de trois laboratoires différents du même institut qui avaient chacun déjà commencé à faire ses preuves en tant que chercheurs, ces trois brillants étudiants décident d'explorer la possibilité qu'un état de sommeil puisse exister chez les méduses, chez des animaux qui ne possèdent pas de cerveau. Et ils choisissent la méduse Cassiopeia, une méduse qui vit en symbiose avec une algue unicellulaire, Cymbiodinium, qui réalise la photosynthèse. Cassiopeia vit sur des fonds marins peu profonds ou sur le littoral des océans des tropiques. Elle se nourrit en partie des produits libérés lors de leur photosynthèse par les algues avec lesquelles elle vit en symbiose. Et la méduse se tient le plus souvent tête en bas, ou plutôt cloche en bas, posée sur le sol, les bras orientés vers le haut, d'où son surnom de méduse à l'envers. La cloche de Cassiopeia se contracte et se relâche régulièrement au rythme d'une pulsation par seconde. Et ces pulsations lui permettent notamment de filtrer l'eau de mer pour y puiser de la nourriture et y rejeter ses déchets. Ces pulsations sont dues à une succession de contractions et de relâchements des muscles de la cloche qui sont contrôlés par des organes particuliers, sensibles à la lumière et à la gravité terrestre, les ropalia. Ravi Nath, Michael Abrams et Claire Bedbrook ont placé 23 méduses Cassiopeia dans un aquarium de 35 litres et les ont soumises à un cycle artificiel d'alternance de 12 heures de lumière et de 12 heures d'obscurité et les ont filmées en permanence durant une semaine pour observer les pulsations de leur cloche.
Take and I'm a sucker for the evening.
France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
Ravi Nath, Michael Abrams et Claire Bedbrook ont découvert que durant la nuit, le rythme des pulsations de la cloche des méduses Cassiopeia ralentit de plus de 30%. Il ralentit dès le début de la nuit, puis devient minimal au bout de 6 à 12 heures. Cette diminution durant la nuit est due à la fois à un ralentissement régulier du rythme des pulsations et à la survenue de nombreuses pauses d'une durée d'une dizaine à une vingtaine de secondes qui ne surviennent jamais durant le jour. Cet état de repos est réversible. Quand les chercheurs déposent de la nourriture dans l'aquarium durant la nuit, les méduses sortent de leur torpeur et adoptent un comportement diurne. Mais leur réponse à une stimulation est-elle retardée durant la nuit? Je vous disais que les méduses Cassiopeia ont l'air d'aimer se positionner à l'envers, cloche en bas, sur la base de l'aquarium. Les chercheurs ont mis au point un dispositif qui permet de déplacer brusquement une méduse qui se retrouve alors soudain au milieu de l'eau dans l'aquarium. Et quand elle se retrouve au milieu de l'eau, elle se repositionne sur la base de l'aquarium en reprenant sa position habituelle. Mais durant la nuit, elle met plus de temps à se repositionner que durant le jour. Et après avoir été brusquement déplacée, elle prend quelques secondes avant de retrouver le rythme rapide de ses pulsations de s'éveil. Sa réponse à une stimulation est donc retardée. Mais une fois qu'elle s'est réveillée, un deuxième déplacement brusque provoque une réponse aussi rapide que durant la journée. En d'autres termes, ce délai de réponse à la stimulation durant la nuit disparaît une fois que la méduse a été tirée de sa torpeur nocturne. Puis les chercheurs ont exploré si une privation de repos durant la nuit entraînait un phénomène compensateur, un besoin supplémentaire de repos. Ils ont perturbé le repos des méduses durant la nuit en provoquant de brèves turbulences de l'eau d'une durée de 10 secondes répétées toutes les 20 minutes au cours des 6 dernières heures de la nuit. Chaque turbulence était suivie d'une accélération transitoire des pulsations de la cloche. Et le jour suivant, à la lumière du jour, le rythme des pulsations de la cloche des méduses était plus lent de 10% que d'habitude, avec des pauses qui, normalement, ne surviennent que la nuit. Et la réponse des méduses aux stimulations, durant le jour, était retardée. Puis, après une nuit de repos sans perturbation, les pulsations le jour suivant avaient retrouvé leur rythme normal, et la réponse à la stimulation durant la journée était devenue aussi rapide que d'habitude. Quand les chercheurs ont perturbé le repos de nuit des méduses, non pas pendant 6 heures, mais pendant 12 heures, le lendemain, durant le jour, le rythme des pulsations était diminué de 17%. En d'autres termes, plus la perturbation nocturne était prolongée, et plus la méduse adoptait le lendemain à la lumière du jour un comportement qui ressemblait à son comportement de repos nocturne. En revanche, si ces perturbations avaient lieu durant le jour, elle ne provoquait aucun changement ni dans le rythme des pulsations, ni dans la réponse aux stimulations. Quand les chercheurs ont placé les méduses dans l'obscurité totale, l'alternance entre les 12 heures de pulsations lentes de la cloche et les 12 heures de pulsations rapides s'est poursuivie, ce qui suggérait la possibilité que cette alternance pourrait être sous le contrôle d'une horloge circadienne synchronisée à la lumière. Mais la durée d'obscurité totale à laquelle les chercheurs ont soumis les méduses n'était que de 36 heures, une durée insuffisante pour juger de l'existence d'un véritable rythme circadien entraîné par une horloge interne. Le système nerveux des méduses partage des caractéristiques communes avec celui des animaux qui possèdent un cerveau. En particulier, les connexions entre les nerfs et les synapses libèrent des neuromédiateurs dont certains sont similaires. Et les chercheurs ont observé que deux molécules qui favorisent l'induction du sommeil chez les mammifères, la mélatonine et un médicament antihistaminique, avaient un effet semblable chez Cassiopeia. Ces deux molécules induisaient, durant la journée, un état de sommeil chez la méduse. L'étude réalisée par les trois étudiants Ravi Nath, Michael Abrams et Claire Bedbrook a été publiée dans Current Biology il y a un mois, le 9 octobre 2017. Elle impliquait une collaboration de leurs trois directeurs de laboratoire et de trois autres chercheurs du même institut, le California Institute of Technology. L'étude était intitulée « Un état semblable au sommeil chez la méduse Cassiopeia ». Cette étude suggère donc qu'un animal dépourvu de cerveau, la méduse Cassiopeia, possède un cycle de veille et de repos qui a les principales caractéristiques comportementales du sommeil. L'étude suggère également que la méduse Cassiopeia a un besoin de sommeil qui se traduit par une période compensatrice de repos lorsque son état de veille a été prolongé au-delà de sa durée habituelle. Les méduses Cassiopeia, qui perçoivent par l'intermédiaire de leurs nerfs des sensations du monde extérieur, se font-elles des représentations mentales de ces sensations? Et si oui, lesquelles? Et ces sensations sont-elles différentes durant leurs états de veille et de sommeil? Les cnidaires, qui comprennent les méduses, les anémones de mer et les coraux, sont probablement avec les cnétaires, dont la groseille de mer et la ceinture de Vénus, les premiers animaux chez qui ont émergé des cellules nerveuses au cours de l'évolution. Les ancêtres des cnidaires et des cnétaires, et les ancêtres de tous les animaux qui possèdent un cerveau, se sont séparés il y a plus de 600 millions d'années. Et cette étude suggère donc que le sommeil pourrait être un état physiologique ancestral, nécessaire au fonctionnement d'un système nerveux, mais dont l'émergence a précédé l'émergence d'un cerveau au cours de l'évolution des animaux. Cassiopeia est-elle la seule méduse capable de dormir? Les autres cnidaires, les anémones de mer et les coraux ont-ils aussi besoin d'un sommeil quotidien réparateur? On ne sait pas encore si Cassiopeia est une exception ou l'exemple d'une règle. S'il n'est pas nécessaire d'avoir un cerveau pour avoir la possibilité et le besoin de dormir, est-il nécessaire d'avoir des cellules nerveuses? Un état semblable au sommeil pourrait-il exister chez des animaux dont l'origine est plus ancienne encore que celle des cnidaires et des cnétaires et qui sont dépourvus de cellules nerveuses, comme les éponges? On ne le sait pas. Mais si tel était le cas, ce que nous appelons le sommeil, longtemps avant d'avoir été un état alternatif particulier de la conscience, et longtemps avant d'avoir été un état alternatif particulier du système nerveux, le sommeil aurait été, avant tout, un état alternatif du fonctionnement du corps, un état ancestral de repos, de quiétude, de restauration, de récupération, de reconstruction, qui aurait préservé l'animal pour un temps des sollicitations permanentes du monde extérieur. Et lorsque plus tard, des sensations, des émotions, des activités mentales, un univers intérieur ont émergé dans le monde animal, le sommeil serait devenu non seulement un état particulier du corps, mais un état particulier de cet univers intérieur que nous appelons l'esprit. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert, avec à la prise de son Stéphane Beaujat, au mixage Rémi Quincet et Thierry Dupin pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.
Sans c'était Sur les épaules de Darwin. Merci Jean-Claude Amezen. Le thème de l'émission aujourd'hui était à la recherche des origines du sommeil, une rediffusion du 18 novembre 2017. Juste après le journal, vous retrouverez Jean Lebrun pour Intelligence Service. Très bon week-end sur France Inter.